9h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, le magazine le dialogue des religions au menu, les traditions et pratiques qui entravent encore la lutte contre l'Ebola. Idrissa Seydou Dia sera en direct avec vous, mais tout d'abord un bulletin d'information. La menace Ebola persiste. Selon des chercheurs américains, entre 500 000 et 1 400 000 personnes en Afrique de l'Ouest pourraient être infectées par le virus Ebola d'ici à janvier, à moins que l'épidémie ne soit sous contrôle. Michel Joseph.
Cette estimation des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies est basée sur un schéma qui suppose que les cas vont doubler toutes les quelques semaines au Liberia et en Sierra Leone et que le nombre de cas actuels signalés par l'Organisation mondiale de la santé est largement sous-estimé. Les CDC ont toutefois précisé que leur estimation la plus élevée sera très peu probable une fois la mise en œuvre des nouveaux efforts pour lutter contre le virus Ebola, dont l'augmentation des centres de traitement et l'engagement des États-Unis à envoyer 3000 soldats dans la région touchée. Les experts ont ajouté que l'épidémie peut être contrôlée si 70% des patients sont placés dans des établissements où le risque de transmission est réduit.
Le gouvernement guinéen envoie 2000 jeunes faire du porte-à-porte pour sensibiliser les familles sur le virus Ebola. L'initiative vient après l'assassinat brutal de 8 personnes, des travailleurs de la santé et des journalistes, alors qu'ils voyageaient à Womé, dans le sud-est, près de Nzérékoré, dans le cadre d'une campagne du gouvernement pour informer sur le virus. À ce propos, une vingtaine de personnes ont été arrêtées, a annoncé mercredi le ministre guinéen de la Justice, Cheikh Sako, lors d'un point de presse. Elles font l'objet d'un interrogatoire devant le procureur de la République de Nzérékoré, a déclaré Cheikh Sako. S'exprimant devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York aujourd'hui, le président américain a plaidé pour qu'un effort plus important soit engagé au niveau international afin d'éradiquer la plus grave épidémie du virus Ebola depuis son identification en 1976 qui sévit en Afrique de l'Ouest. Jacques Aristide.
Pour Barack Obama, le monde affronte aujourd'hui des défis croissants et il appartient à tous les gouvernements de les relever ensemble.
Alors que nous nous réunissons ici, les systèmes de santé publique en Afrique de l'Ouest sont en train d'être submergés par l'épidémie d'Ebola qui risque aussi de s'étendre rapidement au-delà des frontières.
L'intervention du président a toutefois été dominée par la lutte contre le terrorisme, Barack Obama appelant le monde à se joindre au combat contre les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie, et réaffirmant sa volonté de le détruire. Il a demandé aux musulmans de rejeter avec force l'idéologie prônée par de tels groupes ultra-violents, dont Al-Qaïda. Il faut mettre fin au cancer de l'extrémisme violent, a-t-il ajouté. À la tribune de l'ONU, le président Obama a également dénoncé l'agression de la Russie en Europe tout en tendant la main à Moscou, appelé à choisir le chemin de la diplomatie et de la paix dans la crise en Ukraine. Énumérant d'autres conflits en cours, Barack Obama a déploré une année terrible pour les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'Organisation internationale des migrations soutient les enquêtes dans 3 pays d'Europe sur la disparition en Méditerranée de près de 500 migrants qui ont quitté le port de Damiette en Égypte début septembre. Des enquêtes distinctes sont en cours en Italie, en Grèce et à Malte sur l'événement qui, selon des témoins, aurait été un sabordage délibéré d'une embarcation transportant des centaines de migrants venant du Soudan, d'Égypte, de Syrie et des territoires palestiniens. Seuls 11 survivants ont été signalés. Selon l'OIM, le total de pertes en vies humaines en Méditerranée depuis le début de l'année s'élève à 3072 contre 700 pour toute l'année 2013. La coalition menée par les États-Unis a bombardé pour la seconde journée aujourd'hui des positions de l'État islamique en Syrie, ciblant les moyens de transport des djihadistes. Selon le commandement central américain qui supervise les opérations militaires américaines au Moyen-Orient, un raid aérien a endommagé dans l'est de la Syrie 8 véhicules utilisés pour transporter l'équipement en Irak. Ce dernier bombardement est le 20e en Syrie depuis mardi, depuis que Washington et ses 5 alliés arabes ont commencé une campagne aérienne en attaquant des centres d'entraînement et de commandement de l'État islamique. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, gardez vos sièges. Place maintenant à Dialogue des religions, votre magazine préféré avec Idrissa Seydou Dia.
Foi Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à tous et à toutes, au micro Idrissa Sédouya pour cette édition du Dialogue des religions de ce mercredi 24 septembre 2014. En raison de l'épidémie d'Ebola qui progresse de manière exponentielle en Afrique de l'Ouest et des récents incidents en Guinée où 8 membres d'une équipe de sensibilisation ont été tués dans la localité de Womé, nous allons parler aujourd'hui des traditions et pratiques qui entravent encore la lutte contre la maladie. Nous discuterons aussi du rôle que peuvent jouer les leaders traditionnels et religieux dans la sensibilisation des populations sur les moyens de traiter les cas d'Ebola et de se protéger contre la maladie. Tout à l'heure, vos questions et remarques en direct ou sur Facebook. Nos invités, le père Clément Lona, secrétaire général de la Conférence épiscopale de Guinée, et l'imam Issouf Doumbouya, l'imam de la mosquée Ahlou Souna Wal-Jamaa de Philadelphie. Et avec moi en studio, mon jeune collègue Georges Léonard Sagno. Georges, bonsoir.
Oui, bonsoir Dorian, le plaisir est pour moi d'être avec vous.
Merci. Alors, dans un récent discours sur l'Ebola, pour commencer, le président Barack Obama avait tenu à préciser certains faits scientifiques en déclarant « Vous pouvez respecter vos traditions et honorer vos êtres chers sans mettre en danger la vie des vivants ». Quelques extraits de ce discours avec Chérubin Dorsil.
And the first step in this fight is knowing the facts. First, Ebola is not spread through the air like the flu. You cannot get it from casual contact like sitting next to someone on a bus.
D'abord, l'Ebola ne se transmet pas par voie aérienne comme la grippe. Vous ne pouvez pas l'attraper lors de contacts ordinaires, par exemple en étant assis à côté d'un passager dans un bus. Une personne n'est pas contagieuse quand elle ne présente pas de symptômes comme la fièvre. Deuxièmement, le mode de transmission le plus courant est le contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée ou qui en est décédée, sueur, salive ou sang par exemple, ou avec un objet contaminé comme une seringue. C'est pour ça que la maladie se propage plus rapidement lorsque les patients sont soignés chez eux ou qu'ils sont portés en terre par leurs familles et leurs amis. C'est pour ça que les travailleurs de la santé portent des équipements protecteurs tels que des gants et des masques. C'est pour ça que si vous vous sentez mal parce que vous avez une forte fièvre, vous devez immédiatement aller vous faire soigner parce qu'en étant traité sans tarder dans un centre médical, près de la moitié des patients guérissent. Et c'est pour ça que lorsqu'on enterre quelqu'un qui a succombé à cette maladie, il est important de ne pas toucher le corps directement. Vous pouvez respecter vos traditions et honorer vos êtres chers sans mettre en danger la vie des vivants.
In this urgent work and in building a stronger and more prosperous Africa, you'll continue to have a partner in me and in the United States of America.
Voilà, c'était des extraits d'un discours du président Obama disant précisément « Vous pouvez respecter vos traditions et honorer vos êtres chers sans mettre en danger la vie des vivants ». Le problème qui se pose actuellement dans cette lutte contre l'Ebola, ce sont ces pratiques, ces questions de tradition. Et on se demande si les leaders traditionnels et religieux dans la région peuvent jouer un rôle de premier plan dans la sensibilisation des populations. Alors, on pose la question directement au père Clément Lona, secrétaire général de la Conférence épiscopale de Guinée, et à l'imam Issoufou Doumbouya, l'imam de la mosquée Ahlou Souna Wal-Jamaa de Philadelphie. Alors, donc, d'abord, le père Clément Lona, vous pensez que vous pouvez jouer un rôle pour sensibiliser les populations et faire comprendre exactement quel est ce phénomène qu'est l'Ebola? Allô?
Allô?
Mon père?
Oui, oui, voilà. Ce phénomène du virus Ebola, c'est que c'est une épidémie qui a envahi le pays. Donc, c'est une maladie qui est sur la population et elle est réelle puisqu'il y a eu des cas de mort même du corps médical. Il y a des médecins qui sont morts. Le président de la République est intervenu sur cela. Il y a des institutions internationales qui interviennent et qui aident la Guinée pour éradiquer ce fléau. Donc, c'est un fléau, une épidémie qui est réelle. Quelles sont les dispositions qu'on peut prendre? Jusqu'à présent, en tout cas du côté religieux, c'est la sensibilisation sur les mesures d'hygiène. Être propre, laver toujours les mains et puis ne pas toucher le corps de ceux qui sont atteints de cette maladie ou bien qui sont morts. Et dans les assemblées, on tient beaucoup à cela aux portes des églises. On met toujours de l'eau de Javel. Les gens se nettoient les mains avant d'entrer dans les églises et à la sortie aussi. Eh bien, ils font la même chose. Et cette sensibilisation continue tant que le pays est déclaré sous régime d'épidémie Ebola. Cette sensibilisation continuera au niveau des églises. Voilà ce que les dispositions que nous avons prises jusque-là au niveau de l'église.
Merci beaucoup, mon père. Maintenant, l'imam Issouf Doumbouya. Imam, dans la tradition musulmane, on touche les corps, on lave les corps avant de les enterrer.
Oui, effectivement, dans notre religion, dans la tradition islamique, lorsque quelqu'un décède, alors il faut lui faire un bain rituel. Alors, mais dans les cas de force majeure, comme dans un cas pareil, lorsque on est sûr que vraiment la personne est décédée contaminée, alors il serait mieux de laisser les équipes compétentes s'en charger et amener la personne. Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux la condition dans laquelle la personne est décédée. Et donc il serait mieux de ne pas effectivement mettre en danger la vie de ceux qui doivent se charger de laver ce corps-là. Donc, on peut même faire une prière mortuaire à l'absence d'un corps. Ça, c'est permis en islam. Donc, c'est pour vous dire que les musulmans doivent être sensibilisés à cela. Alors, on n'est pas obligé de prendre ce corps, le laver et puis l'amener dans une masse pour dire qu'il y aura une prière mortuaire dessus. Non. Lorsqu'on est sûr que quelqu'un est mort de cela, ceux qui sont chargés, qui ont les équipements, qui peuvent se charger du corps, ils peuvent ensevelir le corps et aller l'enterrer. Alors, la prière mortuaire peut se faire dans un quartier, même dans une autre ville, dans un autre pays, à l'absence du corps de celui qui est décédé. Et ça, c'est permis dans cette religion. Alors, souvent, le problème des musulmans, c'est que y a la quantité, mais il y a la qualité de la chose. Donc, souvent, les gens ne savent pas, ils veulent forcément avoir le corps de leur malade qu'ils vont d'abord laver avant d'aller enterrer. Donc, la contamination se fait très rapidement lorsque le corps doit passer par ces phases-là. Et c'est la communauté qui peut en pâtir.
Merci beaucoup, Imam Issouf Doumbouya. Mon père, le père Clément Lona, est-ce que c'est la même chose aussi du côté des chrétiens? Est-ce qu'on peut prier en l'absence du corps?
Bien sûr que du côté chrétien aussi, il y a la mise en bière, il y a la levée du corps, n'est-ce pas? On organise des prières après avoir lavé le corps, traité correctement le corps, parce que le corps est le temple de Dieu, un homme baptisé, le temple de Dieu. Donc, on respecte ce corps jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Donc, il y a des prières qui sont organisées pour accompagner ce corps-là. Mais, dans de pareils cas, nous respectons l'hygiène et on peut prier pour le corps, même à distance, tout en laissant donc les autorités compétentes pour le soin correct de ce corps.
Merci beaucoup, mon père. Alors maintenant, je vais céder la parole à mon jeune confrère, Georges Léonard Sagnou, qui a visité cette localité de Womé.
Oui, doyen, merci beaucoup. C'est une localité située à 50 km du chef-lieu de Nzérékoré, la préfecture de la grande province du Sud. Et une localité, c'est une sous-préfecture en fait, qui a été donc, le théâtre le 16 septembre dernier des affrontements, ou plutôt d'un incident malheureux qui a causé la mort de 8 personnes. Et c'est une localité majoritairement peuplée par des Kwelés, y compris d'autres, bien sûr, ethnies de la Guinée. Mais ce qui a surpris, ils sont généralement animistes et catholiques. Alors, ce qui a surpris plus d'un doyen et la question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi Womé a été aussi le théâtre, n'est-ce pas, d'un événement aussi malheureux, tragique, doyen.
Mais on se pose la question justement, parce que pourquoi s'en prendre à ces gens qui étaient venus les aider?
Oui, ça, vous savez...
Quelle superstition, quelle religion ou quelle pratique traditionnelle pourrait expliquer ce genre de comportement?
Difficile d'expliquer en se basant sur des croyances. Vous savez, pour le moment, comme les enquêtes sont en cours, je pense qu'on aura beaucoup d'informations avec l'évolution du temps. Mais je vous dis, même le président guinéen qui est à New York actuellement a déclaré hier à la presse que c'est une situation compliquée. Et donc, qu'est-ce qui complique cette situation? On ne le sait pas, mais toujours est-il qu'autrefois, c'était quand même une population paisible dans la sous-préfecture de Womé.
Mais peut-être que ça montre la psychose qu'il y a actuellement.
Il y a une grande psychose, pour votre information, semble-t-il. Hier même, dans des localités, dans des préfectures proches de Conakry, il y a eu aussi résistance. Ça, c'est en Basse-Guinée. Le père qui est au téléphone avec nous peut sûrement en témoigner. Donc je me dis que la campagne sur Ebola ou contre Ebola a été malmenée sûrement par les autorités guinéennes. Et donc ça fait qu'il y a de la résistance. Les gens pensent que c'est une invention des Blancs. Les gens pensent que c'est une maladie exportée et donc on vient pour les anéantir. C'est cette croyance publique que les gens ont aujourd'hui, malheureusement. Opinion publique, j'allais dire.
Merci beaucoup, Georges. Alors, on a un auditeur en ligne, Clément ou Laurent, m'a-t-on dit. Laurent?
Oui.
Allez-y.
Oui, bonsoir mes frères et sœurs. Bon, je m'appelle Laurent, je viens effectivement de cette ville où il y a eu des tueries. Je suis né et grandi là-bas et actuellement je vis aux États-Unis depuis 17 ans, bref, 18 ans très bientôt. Bon, cette chose est venue, ça nous a beaucoup surpris parce que nous n'avons jamais eu des problèmes pareils dans notre village à Womé. Et bon, tout comme les investigations sont en cours, nous attendons tous jusqu'à les gens qui sont arrêtés, ils vont partir à l'interrogatoire. Nous allons voir effectivement quelle a été la cause réelle de ce massacre. Et comme mon frère le disait, la mauvaise compréhension, la mauvaise explication des faits qui fait que les gens se prennent de ça comme quelque chose qu'on amène dans les villes de l'Afrique de l'Ouest pour les tuer non plus, pour les tuer.
Ok, donc, alors, merci Laurent. Donc, je vais revenir au père Clément Lona pour lui demander, ainsi qu'à l'imam Issouf Doumbouya, pour leur demander si vraiment c'est quelque chose qu'on a amené en Afrique de l'Ouest pour tuer les populations, un génocide en quelque sorte.
De la part du père Clément, donc je ne sais pas cela, parce que la maladie est apparue d'abord en Afrique, en tout cas en Afrique centrale, au Congo. Donc c'est une maladie qui est connue. Et comme on sait que par le déplacement des animaux, ces maladies-là aussi peuvent être véhiculées, comme les chauves-souris, les singes, on sait que ces maladies peuvent être véhiculées. Donc, le plan scientifique, en tout cas, il y a une voie qui permet de dire que cette maladie a pu être véhiculée et puis arriver en Afrique de l'Ouest. Mais il y a aussi cette rumeur, effectivement, que la maladie a été amenée en Guinée. Ça, c'est une rumeur. Mais la science permet de trouver qu'une maladie peut être véhiculée par les maladies, par les animaux, par les oiseaux, etc. etc. Et le fait que c'est arrivé en Guinée forestière, depuis janvier, en tout cas en mars, il y a eu une déclaration officielle. Et puis, alors, toutes les institutions de l'État et les institutions internationales aussi se sont donné la main pour lutter contre cette maladie.
Merci, mon père. Oui, mon père, maintenant, je voudrais demander à l'imam Issouf Doumbouya si on peut parler de malédiction et de nouvelles malédictions qui frappent l'Afrique.
Il faut dire que une maladie n'est pas une malédiction. Ça peut venir à tout moment, et quand Dieu veut que ça apparaisse, ça doit apparaître. Alors, il faut que, dans un premier temps, ceux qui sont appelés autorités doivent être fermes et ne pas nier l'existence de la maladie. Ça, c'est souvent le problème. Ceux-mêmes qui doivent sensibiliser les gens, s'ils en doutent, alors la population peut douter de la chose. Alors, maintenant, en tant que musulman, voilà ce que le prophète va nous dire. Lorsque vous apprenez qu'il y a une épidémie dans votre région ou dans la périphérie où vous vivez, le prophète dit, si vous êtes déjà là-bas, ne quittez pas cette périphérie-là, ne quittez pas cette ville sous prétexte que moi, je n'ai pas la maladie. Non, vous devez rester, et ceux qui sont hors de cette périphérie ne doivent pas y aller sous prétexte que oui, Dieu est grand, il ne va jamais me contaminer. Et donc, si vous êtes musulman et vous tenez compte de cette instruction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors vous n'allez pas mettre en danger ni la vie d'autrui, ni même votre vie aussi. Parce que ça, c'est souvent aussi le drame. Si c'est déclaré dans une région, ceux qui sont là-bas, peut-être qu'ils n'ont pas encore les symptômes sur le corps, mais vivant dans cette contrée, peut-être que quelque part, la maladie se trouve en eux. Ils doivent rester jusqu'à ce qu'on puisse maîtriser cette épidémie avant de voyager. C'est pourquoi le gouvernement saoudien qui a pris cette décision cette année de ne pas recevoir des pèlerins venant de ces pays, je pense bien que c'est une décision sage. Parce que tout le monde pourrait dire, je ne suis pas malade, il faut que j'aille accomplir mon pèlerinage. Or, le pèlerinage, c'est le plus grand rassemblement humain sur Terre qu'on ne peut voir nulle part. Et donc, si les pèlerins devaient partir de ces pays-là, alors voyez-vous, une épidémie s'est déclarée lors d'un pèlerinage, c'est le monde entier qui allait en pâlir.
C'est un très bon point que vous venez de faire, justement. Et je ne pense pas qu'il y ait eu levée de bouclier quand il s'est agi de cette interdiction de voyager, là, prise par les autorités saoudiennes.
Oui, donc c'est pour dire que c'est une bonne décision. Alors, malheureusement, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Bon, qui se disent que la Mecque, c'est pour tout le monde. Non, la Mecque, effectivement, c'est pour tout le monde. Mais il y a des instructions religieuses. Le prophète nous dit, si vous êtes dans une contrée où il y a une épidémie, restez jusqu'à ce qu'on puisse maîtriser cette maladie avant de voyager. Et ceux qui ne sont pas là-bas ne doivent pas y aller sous prétexte que c'est ma famille qui s'y trouve. Il faut que j'aille assister les gens parce que tu peux aller mettre ta vie en danger. C'est comme quelqu'un qui vit aujourd'hui aux États-Unis qui dit non, moi je suis dérômé, il faut que je parte et que bon, je m'en vais voir. Non, si jamais qu'on a déclaré que la maladie est là-bas, toi tu dois d'abord attendre jusqu'à ce que tu sois sûr que vraiment on a pu maîtriser. Et actuellement, une maladie qui n'a pas de remède, alors on retourne vers celui qui crée la maladie qui est Dieu. Je crois que ça doit être notre dernier recours avant que la médecine ne puisse trouver des moyens de soigner cette maladie, retournons vers Dieu et demandons-lui son assistance. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et même vendredi passé, lors de notre prière de vendredi, nous avons fait une kunut. C'est-à-dire, c'est la prière, les doigts qui se font au cours de la prière obligatoire pour demander l'assistance de Dieu, afin que vraiment il puisse mettre frein à cette épidémie. Parce que jusqu'ici, la médecine n'a pas de remède contre. Et donc, on doit respecter tout ce qu'on va avoir comme instruction venant de nos médecins, de nos autorités. Ne disons pas, non, Dieu nous voit, non. Alors, en même temps, dire que c'est une malédiction, bon, alors, Dieu nous a interdit de manger certains animaux. Si vraiment, on ne veut pas entendre ce que Dieu le Créateur nous dit de nous en éloigner, souvent il peut nous éprouver. Sinon, la maladie n'est pas forcément une malédiction.
Merci beaucoup, voilà. Imam Doumbouya. Merci beaucoup. On va demander donc l'avis du Père Clément là-dessus.
La maladie n'est pas une malédiction divine. Dieu est bon pour cette créature que nous sommes. Et s'il nous a fait, c'est pour notre bonheur, c'est pas pour notre malheur. Mais avec l'environnement, avec ce que nous connaissons de l'environnement, la façon dont nous traitons l'environnement aussi, avec les animaux qui sont avec nous, bon, il y a des moments où il y a quelques épidémies, quelques maladies, mais l'homme est intelligent aussi, c'est Dieu qui lui a donné cette intelligence-là, donc il est assez intelligent pour, par exemple, pour cette circonstance-là, pour ce cas, assez intelligent pour prendre les dispositions, les moyens afin d'arrêter ce fléau-là. Il peut le faire, mais il faut accepter, il faut aider tout le monde à prendre ses bonnes dispositions, les mesures d'hygiène, se laver les mains, être propre. Et puis, comme le disait mon collègue, aussi accompagner cela de la prière. Nous seuls, nous pouvons prendre les dispositions humaines, ça c'est normal, mais nous ne sommes pas là, nous dépendons de Dieu et nous nous confions à Dieu. C'est dans ce sens que nous prions Dieu pour qu'il nous aide, lui aussi, à éliminer cette maladie-là qui est très dangereuse pour la vie de nos populations.
Merci beaucoup, mon père. Alors, on a en ligne Maître Koné Aimé Christophe Labilé, qui est membre du Conseil de l'Ordre et il est président de l'Association des jeunes avocats de Guinée. Il est en ligne. Alors, Maître, vous avez la parole. Maître Koné.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir, Maître.
Oui, bonsoir.
Allez-y avec votre question ou commentaire, s'il vous plaît.
Moi, je viens de prendre l'émission en marche et j'ai suivi les deux religieux. Je pense qu'au-delà de ce qu'ils viennent de dire, tout ce que la population devrait savoir, la maladie, quand elle existe, il faut vraiment faire attention. Il ne faudrait pas qu'on essaye de mettre en doute ce que disent les professionnels, c'est-à-dire les médecins. Quand on vous prescrit des méthodes ou des comportements adaptés, je pense qu'il faut bien le faire, il faut l'observer. Car même si à supposer que la maladie n'existe pas, ça serait juste d'être en sport. Ça ne vous coûterait vraiment pas des ennuis en respectant ce qu'on vous dit de faire. Et ils l'ont dit, dès le départ, il y a eu quelquefois des choses qui n'ont pas marché. Quand on a voulu certainement tâcher ce qu'est la maladie, puisqu'on nous dit que cette maladie existe depuis le mois de janvier, et que ce n'est qu'au mois de mars que ça a été vraiment annoncé. Donc, ce qui veut dire que la maladie avait déjà fait un mal de dégâts et ce qui a vraiment multiplié le foyer de contamination. Et je pense qu'il faut prendre, comme on le dit, le taureau par les cornes quand il y a un tel cas qui se produit dans un pays. Il faut tout de suite dénoncer, annoncer et que chacun prenne ses gardes. Je pense que si on avait pu prendre ces précautions très tôt, nous ne serions pas vraiment envahis au jour d'aujourd'hui parce que la maladie a vraiment pris de l'ampleur et les suspicions qui se sont passées par-ci, par-là, ça a créé l'incertitude dans la tête des...
Merci, voyez, merci beaucoup, Maître Koné. C'était Maître Koné Aimé Christophe Labilé. Malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je tiens à remercier encore une fois le Père Clément Lona, qui est le secrétaire général de la Conférence épiscopale de Guinée. Merci, mon Père. Je dis aussi merci à Eladj Issouf Doumbia, qui est imam de la mosquée Ahlus Sunna Wal Jamaa de Philadelphie. Bien sûr, mes remerciements à mon jeune collègue Georges Léonard Sagnou et de l'autre côté de la vitre, Joselle Morissin.
Tout le plaisir a été pour moi, doyen.
Ok, alors, c'était Idrissa Sedoulia pour le Dialogue des Religions. Washington, la voix de l'Amérique.
Bonne Ebola. Manya wosila mfenye.